Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Alors qu'au musée d'Orsay, au milieu d'un très bel accrochage des post-impressionnistes, se déroule une exposition précise autour de la fameuse peinture Le Talisman, peinture de Sérusier, réalisée sous la houlette de Gauguin en 1888 et qui, en dépit de sa petite taille, nourrira pendant de nombreuses années l'inspiration des peintres qui se firent appeler Nabi, les prophètes en quelque sorte. Une autre exposition complète cet ensemble au musée de Luxembourg, appelée Les Nabis et le décor. Et on y découvre, par Bonnard, Vuillard, Rançon, Maurice Denis et quelques autres, l'ambition profonde de ses compagnons qui veulent s'affranchir des dogmes de l'impressionnisme et du réalisme et rêvent d'un art total qui, répondant à l'évolution de la société, offre aux contemporains une expression moderne de leur époque. Moderne, mais paradoxale, nous allons en parler. Et pour en parler, je reçois la co-commissaire de l'exposition avec notre amie Cocheval. Je reçois Isabelle Kahn, conservatrice en chef, conservatrice générale des peintures au musée d'Orsay et commissaire de nombreuses expositions que vous connaissez et qui prépare d'ailleurs en ce moment l'exposition Fénéon. Fénéon, c'est un petit peu la suite de ce post-impressionniste. Il était un peu lié à cette aventure-là déjà, non ?
Oui, c'était une figure majeure de ce mouvement puisqu'il a été le grand découvreur de Seurat.
Voilà. Et donc on est dans l'exposition dont nous allons parler dans quelques instants, dans une idée assez particulière puisque c'est l'idée que un tableau, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, faut faire plus, faut faire un environnement complet et qu'on peut imaginer quelque chose qui corresponde à ce qu'est la société du moment. Alors le paradoxe dont nous allons parler, et Sylvie Patry, vous qui êtes co-auteur de l'exposition, en tout cas co-auteur du catalogue de l'exposition, vous avez fait une grande partie des notices et vous êtes conservatrice générale vous aussi au musée d'Orsay et en plus, je crois, responsable des collections si je me trompe.
Oui, directrice des collections et de la conservation.
Alors ça, vous savez à quel point c'est important pour nous, hein, tous, hein, qui sommes dans ce métier, c'est que c'est vous qui prêtez. Donc c'est vous vers laquelle on vient supplier. Est-ce que vous pourriez... Vous faites combien de prêts par an ?
On en a au moins 1000, au moins 1000 par an. Hein. On prête beaucoup, on est très généreux.
Ouais, merci pour eux. Merci pour les expositions qui, partout, profitent un petit peu de cet ensemble tellement riche. Vous êtes spécialiste d'impressionnisme, mais vous avez contribué à l'organisation de très grandes expositions. Je sais pas pourquoi je pensais à Ferdinand Hodler, parce que Ferdinand Hodler, qui est ce grand artiste suisse, ça m'intéresse dans ce climat parce que il y a par moment, dites-moi si je me trompe, avec les Nabis, une correspondance sur la spiritualisation des œuvres.
Oui, ça peut être un lien effectivement entre Ferdinand Hodler et les Nabis. Et puis pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, s'il y a vraiment un artiste qui a aussi réfléchi à cette question du décoratif et qui a fait des grands ensembles décoratifs, c'est aussi Ferdinand Hodler. Et on prépare d'ailleurs au musée d'Orsay une exposition sur la peinture suisse, sur la génération d'après Ferdinand Hodler pour 2020, pour continuer à explorer ces questions de couleur, de décoratif, de rythme. Dans un foyer artistique qui est beaucoup moins connu en France, celui de la Suisse.
Alors, j'ai une première question à vous poser qui correspond à un paradoxe, vous allez m'éclairer Isabelle Kahn, c'est qu'on a l'impression que ces artistes veulent correspondre à leur temps, à la transformation de l'habitat, à la transformation de la sensibilité, aux transformations sociales donc de l'époque, et en même temps, dans ces mondes clos, on a l'impression qu'il y a un refus absolu du temps dans lequel on se trouve. Est-ce que cette opposition est juste ?
Oui, il y a une certaine tension. C'est-à-dire que ces grands décors, ils sont destinés à des intérieurs. Et l'intérieur, par définition, c'est un refuge, c'est un endroit qui nous protège du monde extérieur. Donc il y a ce grand paradoxe et en même temps, il y a cette volonté absolue de fuir le pastiche, de fuir les styles historicisants pour créer de nouveaux styles ouverts sur la couleur, sur la ligne, et puis avec des sujets aussi très contemporains.
Alors c'est des sujets contemporains, mais en même temps, on ne voit jamais une usine, on voit pas. Le monde mécanique est refusé, le développement de l'urbanisme est refusé. On voit des jeunes femmes à la campagne, des paysages délicieux, le caractère symbolique d'une source, des choses qui sont néanmoins hors du temps. Et vous dites qui refuse le côté historiciste, mais en même temps, il y a une influence médiévale, il y a une influence parfois byzantine, enfin, il y a des choses curieuses.
Oui, il y a des additions de style, d'influence, et on voit bien que, par exemple, Vuillard va au Louvre quotidiennement, ou Maisie de Cluny aussi regarde la tapisserie de la Dame à la Licorne, alors ça l'inspire beaucoup. Il va voir les massacres de Sceaux, au moment où il peint les panneaux pour le docteur Vaquez, qui sont ces merveilles représentant des intérieurs, justement avec des femmes occupées à faire des bouquets, à lire. Et il transpose en quelque sorte tout ce qu'il voit et tout ce qu'il connaît.
J'ai pas compris ce que vous disiez, je vous demande pardon, je vous fais répéter, parce que vous dites qu'il va regarder les massacres de Sceaux. Pour moi, les massacres de Sceaux, c'est Delacroix, mais c'est pas ça que vous pensez ?
Si, absolument, je pense à Delacroix, donc... En quelque sorte, on peut dire, et pour nous c'est un précipité un petit peu violent, et que ces panneaux, en tout cas pour leur harmonie colorée, sont nés de l'observation des massacres de Sceaux de Delacroix.
Mais pourquoi ?
Et c'est la couleur, c'est la manière dont Delacroix tisse ses couleurs, qui inspire à Vuillard cette sophistication dans l'usage des couleurs.
Alors les massacres de Sceaux, donc c'est un tableau du Louvre extraordinaire, avec effectivement une sorte de paysage au cœur du tableau, un paysage dans les ocres jaunes, des verts pâles sur les côtés et une scène de massacre au premier plan avec un grand cheval gris comme ça qui est de toute beauté pommelé. Et puis c'est ça qui les a fascinés, c'est l'usage de la couleur que Delacroix fait.
Là, on est précisément dans la définition du mouvement des nabis tel que donné plus tard par Maurice Denis. On oublie le sujet, on oublie le cheval de bataille, on oublie tout ce qui se passe. Et c'est juste l'enregistrement des rapports des couleurs. Là, c'est très précis. On sait cela par le journal d'Harry Kessler, qui est aussi un grand témoin de ces transformations des décors. Hein, de
c'est un artiste ou un critique d'art ?
C'est un grand critique collectionneur, surtout, et qui a écrit ce journal parce qu'il a fréquenté les artistes à Paris. Et c'est Vuillard qui lui confie ses promenades et qui dit j'ai été inspiré par ce tableau et par ces sources de couleurs. Et quand on regarde justement ces fameux panneaux faits pour le docteur Vaquez, on voit ces entrelacs de pourpre et de vert, tous ces signes graphiques mais aussi très colorés dans l'espace et qui disent tout du décor et du projet esthétique.
Alors encore une question, puis après j'ai beaucoup de questions pour vous Sylvie, mais encore une question, vous dites, c'est très clair dans la phrase de Maurice Denis, vous pensez à quelle phrase que nos auditeurs l'écoutent eux aussi ?
Je ne la sais pas par cœur, mais c'est avant presque. D'être un cheval de bataille, un sujet quelconque, un tableau est avant tout des taches de couleurs dans un certain ordre assemblé. Donc on voit bien que le sujet n'est pas complètement évacué puisqu'il est évoqué, mais il disparaît derrière l'interprétation stylistique.
Alors il y a un mot qui manque, c'est une surface plate. Parce que en fait, c'est quelque chose qui est très important. Il m'a semblé, quand j'ai visité votre exposition, vous l'avez remarqué, peut-être il y a un refus de la profondeur, tout est plan. En fait, ce sont des plans, le plan de la surface, puis derrière le plan du mur, le plan du décor, derrière la porte, il y a encore un plan. Vous n'avez pas l'impression, Sylvie Patrick, que on a un monde non seulement clos, mais étanche.
Oui, ben là on est vraiment au cœur du projet des nabis et de leur renouveau des pratiques décoratives. Ils s'inscrivent dans un contexte où la grande décoration publique et les décorations privées soit dans un esprit naturaliste, soit dans un esprit historiciste où les artistes finalement trouent le mur et les nabis vont ramener. Ils admiraient beaucoup quelqu'un comme Puvis de Chavannes par exemple. Ils ramènent le décor à sa muralité en fait.
Alors, le Puvis de Chavannes, donc c'est un immense fresquiste aussi de l'époque, non ? Ou pas fresquiste, non, décorateur,
décorateur. C'est un grand décorateur.
De monuments, disons.
Voilà, et donc qui travaillait sur des toiles qui étaient ensuite marouflées. Donc on n'a pas réussi au 19e, ils ont tous beaucoup essayé, on n'a pas réussi à revenir à la fresque en fait, mais l'effet était recherché.
Oui, il y a cet effet en fait, je disais fresque parce qu'on a l'effet de matité qu'il y a sur des fresques. Et j'ai l'impression, et je ne sais pas comment comment ils s'y prennent techniquement, que ces artistes cherchent une matité particulière. Il n'y a jamais de... ça ne brille pas. Comment ça se fait ?
Justement, je crois que c'est le modèle absolu, la référence absolue pour tous ces artistes qui s'attaquent à la muraille, comme on disait à l'époque. C'est vraiment de retrouver la grande tradition de la peinture décorative qui était à fresque. Et donc qui était mat. Et les nabis, comme Puvis de Chavannes, comme les impressionnistes à un moment aussi de leur carrière, par exemple, ont refusé cette... la peinture qui brille, le vernis, la peinture à l'huile, c'est la peinture de chevalet, et la peinture murale, c'est la matité.
Mais il y a un secret technique pour ça?
Alors, il y a plein de secrets techniques qui font que ces œuvres sont souvent extrêmement délicates, et ça, Isabelle pourrait sans doute souligner
Isabelle,
la difficulté à réunir les prêts. C'est de la détrempe, c'est des techniques mat, justement, la peinture avec de l'eau, de la colle. Il y a un côté très expérimental qui fait qu'on a...
Il y a une histoire sur la colle. Il y a la colle de... J'ai lu ça dans le catalogue.
C'est la colle de peau. Donc, en fait, cette colle, on l'a fait gonfler dans l'eau. Donc, il y a vraiment un liant à queue. Et ce liant accroche beaucoup moins bien au support. D'où la fragilité, on voit bien. Et la comparaison avec la fresque est évidente. On voit, c'est des surfaces très, très mates et qui sont, au fond, très fragiles aussi.
Et donc, c'est pour ça que les prêts n'étaient pas si faciles à obtenir.
C'était très difficile.
C'était un cauchemar?
Bon, peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est très difficile parce que le sujet est contraint aussi. L'idée au Musée du Luxembourg, c'est de rassembler des panneaux qui ont été dispersés parce qu'au fond, ils appartenaient à des particuliers. Il y a eu des déménagements, il y a eu des ventes.
Et puis, il y a eu des séparations parce que je pense par exemple... Enfin, je ne parle pas des séparations des familles, je pense des séparations des œuvres ou des panneaux entre eux. Je pense par exemple à un assez beau paravent qui avait été... conçu par Bonnard, est-ce que je me trompe?
Oui.
Et qu'il a préféré séparer finalement lui-même. Enfin, il a préféré ne plus en faire un paravent.
C'est le premier décor, et quand on entre dans l'exposition, on tombe sur les femmes au jardin, qui étaient conçues au départ comme un paravent. Et il écrit, Bonnard écrit à sa mère peu de temps avant de l'exposer au salon, « J'ai démonté mon paravent car il faisait trop peinture ». Donc au fond, la différence, c'est quoi? C'est comment exposer un objet en trois dimensions qui est un paravent? Et comment exposer des panneaux? Et les panneaux sont faits pour être mis sur un mur, donc à plat, et non pas présentés en trois dimensions.
Vous pouvez nous le décrire, les femmes au jardin, qu'on puisse imaginer, nous qui sommes à la radio, sans le pouvoir du cinéma, mais avec beaucoup plus de pouvoir qu'est celui de l'imagination, à quoi ça ressemble?
Donc il y a quatre feuillets, quatre grands panneaux... qui comprennent chacun une femme associée à des éléments naturels, de la végétation, et parfois des animaux. On voit un chat, il y a un chien, et tout est très très stylisé. Il faut imaginer des panneaux étirés en longueur, avec une sorte de fusion entre le décor, les personnages, et surtout une grande attention de Bonnard aux costumes de ces femmes, aux chapeaux, aux robes, aux motifs. Et ces panneaux peuvent aussi évoquer les différentes saisons. On les a souvent associés aux saisons. En réalité, ils ne sont pas illustratifs par rapport à ce thème.
Alors, il y a plusieurs choses qui sont frappantes. On va raconter tout à l'heure d'où viennent ces artistes, comment ils sont rassemblés, qui les a influencés. Il faudra que vous nous disiez tout cela, Sylvie, hein, tout à l'heure. Mais quand même, puisque c'est c'est le tableau qu'on a en face quand on rentre dans votre exposition, donc c'est un tableau très important, il y a deux ou trois éléments qui vont être quasiment des constantes. Il y a la question de la sinusoïde. Hein, n'est-ce pas, cette sorte qui va revenir très souvent et qui va définir ce que sera un peu plus tard l'art nouveau, probablement, ou en tout cas avoir une influence. Il y a sans doute cette planéité qui est accentuée par un phénomène très étrange dans le panneau le plus à droite de la composition. Il y a ce damier qui est très caractéristique de Bonnard, qui va réutiliser très souvent, même dans des peintures d'enfants au bord de la plage. Là, vous avez un damier comme ça qui surgit. D'où ça vient et pourquoi et à quoi ça sert et pourquoi avoir cette insistance? Parce que vous avez tout d'un coup une surface, il n'y a plus le moins de modelé, plus de volume. Et puis il y a ces fleurs qui flottent et qui donnent l'impression de passer devant comme si dans une tenture les fleurs flottaient. Et ça, il y a quelqu'un derrière tout ça peut-être.
Oui, il y a quelqu'un. En tout cas, il y a évidemment l'influence du Japon dans ce traitement très très plat, presque d'une image, alors qu'en fait on est dans une peinture extrêmement sophistiquée, avec en effet des motifs qui passent les uns devant les autres, et on a l'impression que les éléments flottent comme s'ils étaient pris dans l'eau, comme des algues qui flotteraient. Et le désir de Bonnard était vraiment de s'éloigner le plus possible de la réalité et de la description à la fois de l'espace naturel, pour aboutir justement à cette interprétation extrêmement décorative, cette alliance des couleurs aussi vraiment surprenante. Et puis, comme vous le disiez aussi, ce motif de carreaux aplatis, comme dans les dessins d'enfants.
J'adore ça, c'est absolument fascinant. On l'a dans la peinture byzantine parfois, hein, dans les costumes byzantins, on voit des choses semblables. Alors Isabelle, vous nous dites ça, et j'aimerais bien faire réagir Sylvie sur cette question du japonisme, puisque ça va être une des clés de notre affaire. Et dans, au fond, la clé, c'est probablement l'influence du Japon, et particulièrement de l'estampe japonaise, mais pas seulement, sur tous ces artistes, entre 1888 et bien au-delà, jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire, mais en tout cas dans tout ce qui est le japonisme. Et il y a quelqu'un derrière tout ça, on l'appelle Bing, c'est qui ce personnage ?
Donc Bing était un marchand qui a donc lancé une maison l'Art Nouveau et qui a contribué effectivement à cette diffusion du japonisme. Il a organisé l'exposition de 1890 qui a lieu à l'école des Beaux-Arts, où les artistes voient toutes ces estampes
très beau lieu,
japonaises.
Hein, l'école des Beaux-Arts,
absolument. Mais le Japon, ça fait quand même depuis les années 1850, la fin des années 1850, que les artistes regardent beaucoup l'art japonais, et en particulier les estampes. Et
comment ça se fait ? Moi, je pensais que c'était que vers 1880. Ça a commencé plus tôt
avec les impressionnistes en particulier, en fait, qui ont beaucoup regardé les estampes japonaises, regardez aussi les objets japonais, les céramiques qui ont commencé à être exposés à l'occasion des expositions universelles à Paris. Et ce qu'ils y ont trouvé, et je pense que c'est ce que les nabis aussi y ont trouvé, c'est effectivement, c'est des règles de composition complètement différentes de la tradition de la peinture occidentale. On le disait, cette planéité, ce goût des arabesques, cette fantaisie aussi, il y a de l'esprit, il y a beaucoup d'esprit dans ces décors. Vous parliez des paravents de Bonnard, il y a parfois un aspect un peu caricatural, spirituel, qu'on retrouve très vivant, qu'on retrouve dans les estampes japonaises. Il y a aussi cette idée du sujet. Vous parliez du sujet en mentionnant le fait qu'il n'y avait pas de vue d'usine, en effet, mais ça n'en reste pas moins des représentations de la vie moderne. Et ces femmes, en général, elles ne sont pas à la campagne, elles sont dans des parcs, dans des jardins publics qui sont emblématiques.
C'est des jardins publics ou c'est des belles propriétés privées, luxueuses
et bourgeoises ?
Il y a
des jardins publics et il y a des propriétés luxueuses et bourgeoises, mais c'est typique de la vie moderne, enfin de la vie telle qu'elle est. Les costumes sont des costumes contemporains. Et ça, les Japonais, les artistes ont été sensibles au fait que dans les estampes japonaises, les artistes japonais représentaient aussi des scènes de la vie quotidienne. Il y a plus cette notion de peinture d'histoire qui est tellement associée au décor au 19e siècle. Donc voilà, à la fois d'un point de vue formel, du point de vue du sujet, du point de vue de l'esprit aussi, de la ligne, des couleurs qui sont posées en aplat, sans modeler. C'est vraiment un lien très très important, un élément de renouveau du décor qui est vraiment très important.
Alors on va écouter ce que dit à cette époque-là ce fameux Siegfried Bing, mais qui s'appelle pas Siegfried exactement, c'est exactement son...
Samuel. Mais, et c'est Siegfried.
On l'appelle Samuel ou Siegfried
le prénom Siegfried est resté.
Alors on va l'écouter, puis vous allez nous parler de lui, parce que j'ai l'impression qu'il a compté dans l'aventure.
Une exposition nouvelle s'est ouverte aujourd'hui au pavillon de Marsan, dans les salles du musée des arts décoratifs. Elle comprend un admirable choix d'estampes japonaises, prêtées par les principaux collectionneurs de Paris. Elle sera sans doute une révélation pour beaucoup de visiteurs, qui, n'ayant guère vu que des enluminures de pacotilles, ne soupçonnent point que cet art soit capable de grâce et de grandeur. Il y a une trentaine d'années que se formèrent en Europe les premières collections d'estampes. L'engouement de nos amateurs étonna d'abord les Japonais, restés admirateurs fervents de leur peinture, de leur bronze, de leur poterne et de leur lac. Ils attachaient moins de prix à ces images populaires. C'est un peu nous qui leur avons appris à les considérer comme des œuvres d'art. Siegfried Bing, l'exposition d'estampes japonaises, journal des débats politiques et littéraires, janvier 1909.
Vous
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous sommes en train de parler de l'exposition qui se tient au Luxembourg, au Jardin du Luxembourg en ce moment, et qui s'appelle Les Nabis et le Décor. Et je suis avec Sylvie Patry qui vient de parler, et j'interroge Isabelle Kahn sur le personnage Siegfried Bing. Ce Siegfried Bing, il était marchand. Il était marchand de céramique, il était aussi directeur de revue, il était organisateur d'exposition, et c'est lui qui a organisé l'exposition de 1890, c'est-à-dire 20 ans avant le commentaire qu'on vient d'entendre, ce qui a tellement influencé tellement d'artistes.
Oui, Bing était vraiment un pionnier pour tout ce qui concerne le Japon. Donc il a fait venir beaucoup d'objets, beaucoup d'estampes aussi. Il était réputé justement pour sa collection d'estampes. C'était un marchand.
Il paraît que certaines des céramiques venaient emballées dans des estampes japonaises qui servaient, puisque c'était comme des magazines ou des feuilles aisément distribuées, qui venaient emballer là-dedans. Et finalement, on s'est dit, un jour, l'emballage n'est pas si mal.
Oui, c'est ça. C'est un emballage qui, pour les Japonais, n'avait aucune valeur. Mais finalement, ce sont les artistes aussi qui ont compris la valeur de ces œuvres, parce que c'était une véritable révélation. Et ils ont adoré ces feuilles très colorées. Et cette nouvelle technique leur a permis aussi de se dégager justement des recettes traditionnelles. Et ils se sont aussi beaucoup intéressés aux représentations, et en particulier dans l'art japonais, il y a aussi un point commun avec les nabis, c'est une sensibilité à l'impermanence du temps. Donc dans ce déroulé aussi des sujets où on voit des femmes dans des jardins, où on voit des scènes particulières, en fait c'est comment représenter la temporalité, c'est ça aussi la question que se pose.
C'est presque ce que veut dire ukiyo-e, qui est la façon qu'on appelle les estampes japonaises, hein, c'est ce temps flottant.
Le monde flottant. Monde flottant qu'on ne peut pas retenir, donc c'est cette idée justement que les nabis vont vouloir en quelque sorte cristalliser dans leur composition, donc sans s'apesantir, et c'est ça aussi qui est très beau, et cette technique justement qu'on évoquait tout à l'heure de la détrempe leur permettait de peindre très vite, contrairement à l'huile.
Alors, il y a une chose que j'ai adorée dans l'exposition, parce qu'on le sent très puissamment, c'est ce climat que vous venez de formuler très bien, qui est ce temps dans lequel il y a de l'ennui, du flottement, des femmes qui perdent du temps, des gens qui se regardent. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet, parce que parfois, il y a des relations psychologiques complexes entre les sujets. Hein, vous l'avez remarqué, Sylvie,
hein? Oui, ça n'est pas une peinture sans sujet, c'est une peinture stylisée et très recherchée plastiquement, mais effectivement, il y a des atmosphères parfois un petit peu étouffantes, et la notion du sujet reste quand même importante.
On a l'impression que la relation familiale n'est pas toujours simple. Hein. Mais où est-elle simple, hein? C'est normal, c'est l'humanité qui est comme ça probablement. Vous avez employé un mot tout à l'heure, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient, de qui ça parle, comment c'est venu, Nabi?
Alors le mot nabi vient du mot hébreu nevi'im, et qui est le même d'ailleurs en arabe, qui veut dire prophète.
Vous voulez dire que les artistes se sont dit prophètes tout d'un coup? Nous on est prophètes, c'est-à-dire qu'on attend. Ça veut dire quoi dans leur esprit?
Mais ça veut dire beaucoup de choses, parce que le prophète est aussi en quelque sorte un intermédiaire entre le divin et puis le terrestre. Donc il y a cette idée d'un art inspiré, d'un art pour lequel il faudrait des médiateurs. Et justement, ces jeunes artistes se sont voulus les médiateurs d'un art nouveau.
Ils se sont rencontrés comment ?
Ils se sont rencontrés dans un atelier, l'atelier Julian, où ils étaient très jeunes.
C'est une école, l'atelier Julian, c'est une académie.
C'est une académie.
Elle avait une qualité, hein, par rapport que les autres n'avaient pas, vous devinez ?
C'était une académie sans professeur qui corrigeait particulièrement son cours. C'était plutôt une académie qui proposait des modèles et qui laissait leurs élèves assez libres.
Moi, c'est pas ça que je pensais qu'elle était mixte.
Elle était mixte plus tard. Ouais,
elle était internationale.
On n'était pas obligé de parler français.
Ah oui, non. Beaucoup d'Américains, de Suisses.
Et on n'imagine pas jusqu'en 1897, l'école des Beaux-Arts n'accueillait pas les femmes. Hein. Donc celle-là accueillait les femmes et pouvait dessiner des modèles masculins. Donc c'était au moins cela, un peu de liberté.
Il y avait beaucoup de liberté, voilà. Mais quelques nabis, enfin quelques artistes quand même ont aussi fait les Beaux-Arts à Paris, qui était leur école. Donc ils ont aussi apprécié cet enseignement, de même qu'ils appréciaient les musées, et puis qu'ils ont aussi regardé toutes formes d'art.
Alors qui était où? Qui était à Julian? Qui était aux Beaux-Arts, par exemple? De quelques noms des principaux qui interviennent dans votre exposition?
Bonnard, Vuillard étaient aux Beaux-Arts, mais ils n'ont pas fait de scolarité complète. Enfin bon, c'était des passages, et Julien aussi. Donc en fait, c'est un groupe très mouvant.
N'encouragez pas les mauvais élèves, s'il vous plaît.
Mais non, mais c'est les meilleurs, c'est ceux qui prennent tout partout.
C'est vrai en plus. Et par contre, chez Julien, il y avait qui?
Chez Julien, au départ, il y avait Serrusier et également Ransoum.
Serrusier, c'est un peu le pape des nabis, non?
Alors lui, c'est le passeur entre Gauguin et puis Gauguin et le reste de ses condisciples. Maurice Denis, là aussi. Donc Maurice Denis sera le théoricien plus tard. Voilà,
Maurice Denis est plus âgé ou plus jeune? Qui est le plus âgé? Qui est un peu l'aîné de l'aventure?
Ils ont presque tous le même âge.
Serrusier est plus âgé, sinon ils sont tous nés entre 68 et 70. Enfin, Maurice Denis est né en 1870, où ils ont le même âge.
Oui, voilà, c'est ça, quelques années près. Oui, mais,
Et alors, vous avez cité son nom à l'instant, donc c'est Gauguin. On va quand même en dire un mot, parce que je pense qu'il est un petit peu à la source de cette aventure. On va écouter ce qu'en dit Maurice Denis.
Quel éblouissement d'abord, et ensuite, quelle révélation. Au lieu de fenêtres ouvertes sur la nature, comme les tableaux des impressionnistes, c'étaient des surfaces lourdement décoratives, puissamment coloriées et cernées d'un trait brutal, cloisonnées, car on parlait aussi à ce propos de cloisonnisme, et encore de japonisme. Nous retrouvions dans ces œuvres insolites l'influence de l'estampe japonaise, de l'image d'Épinal, de la peinture d'enseigne, de la stylisation romane. Maurice Denis, L'époque du symbolisme, 1934.
Continuons à parler des nabis dans l'art et la matière, et nous étions juste en train d'entendre Maurice Denis. C'est un texte un petit peu tardif, mais il fait allusion à sa découverte de Gauguin. Je pense que c'est vers quelles années, à votre avis, Isabelle Kahn?
Il s'agit de la première exposition de Gauguin, enfin, vue par les nabis. On est en 1889, dans l'enceinte de l'exposition universelle, mais pas du tout dans le pavillon des Beaux-Arts. On est dans un café Volpini, qui a accepté parce que les miroitiers ont fait défaut au dernier moment. Au lieu d'accrocher des glaces, ils ont accroché des tableaux de Gauguin, mais aussi d'Émile Bernard et d'autres artistes qui travaillaient avec Gauguin à Pont-Aven.
Et Gauguin va rester leur référence, Sylvie Patrice. Ça va être c'est le grand maître qui apparaît et qui regarde par-dessus l'épaule de Serrusier quand il est en train de peindre.
Oui, Gauguin va rester la référence, une des grandes références des nabis, même quand ils ne seront plus nabis. D'ailleurs, c'est vraiment un exemple. Enfin, pour sans paraphraser la phrase de Maurice Denis, il y a vraiment cette idée de surface décorative et d'anti d'une peinture qui n'est plus réaliste, qui n'est plus dans l'imitation, dans le mimétisme, et qui n'est plus aussi dans le récit, dans la narration. Ça, je pense que c'est très important pour regarder les innovations.
Mais vous ne trouvez pas curieux, au fond, que ces artistes découvrent Gauguin? Et donc il y avait Serrusier qui l'avait rencontré un an avant à Pont-Aven, quand il était tout jeune artiste, et qui va créer l'histoire fameuse du talisman, qu'on a déjà raconté à l'antenne, donc nos auditeurs en trouveront l'émission sur notre site. Mais surtout, Gauguin, c'est l'aventurier, c'est celui qui aime l'extérieur, et eux, nos nabis, ils vivent dans des canapés profonds, dans des endroits dont j'exagère.
Alors, des canapés profonds, peut-être pas, parce qu'ils n'étaient pas très fortunés. Donc,
ils
décrivent les mondes de leurs commanditaires, en fait, de leurs collectionneurs. Ils ont un petit groupe de collectionneurs fortunés. À ce moment-là, ils ne sont pas très connus. Ça reste une production assez confidentielle et effectivement très assez parisienne. Enfin, il y a un collectionneur à Toulouse qui va leur commander, qui commande à Maurice Denis des décors. Mais effectivement, on est.
Vuillard n'a pas l'air d'avoir envie de montrer autre chose qu'un intérieur, hein. Donc.
Oui. Mais ce sont pas des artistes voyageurs comme
pourtant,
Gauguin.
Bah
parce que l'enseignement est vraiment. Je pense que la leçon est plastique, en fait. Elle est vraiment. Et puis dans ce refus aussi de la narration d'une peinture qu'ils appellent littéraire et qui est très mauvais, qui est un terme négatif dans la bouche des nabis ou sous la plume de Maurice Denis en particulier.
Oui, parce qu'il n'y a pas de récit.
Il y a un refus de l'anecdote, il y a un temps suspendu en quelque sorte. Et la phrase de Denis que vous citiez avec Isabelle sur se rappeler qu'un tableau avant d'être un cheval, d'être une scène de bataille ou un nu, voilà, est une surface recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. C'est vraiment cette idée que, en fait, on doit traduire exprimer par les moyens qui sont propres au tableau, et donc la couleur, le plan, la ligne, par opposition à la narration qui, elle, relève de la littérature, en fait.
Sylvie, vous nous avez dit, il y a quelques collectionneurs. Comment est-ce qu'ils se font connaître, ces jeunes nabis? Comment est-ce qu'ils sont aimés? Et qui va les aider? Parce que il y en a quelques-uns qui vont se dire, mais ils ont raison, leur idée de faire un art global est une bonne idée, je vais faire chez moi avec eux.
Mais ils se sont fait connaître par divers moyens. Bon, ils ont exposé à Paris pour se faire remarquer par certains collectionneurs. Par exemple, pour Maurice Denis, lorsqu'il obtient sa première commande décorative, donc c'est une œuvre qui s'intitule Arabesque poétique et qui est dans l'exposition conçue par Isabelle. Donc le commanditaire, c'est Henri Lerolle, qui est un peintre qui n'avait rien à voir pour ce qui est de sa propre peinture avec l'art des nabis, et qui découvre l'œuvre de Maurice Denis dans un salon à Paris et qui décide de lui passer commande. Donc ils vont se faire connaître aussi par réseau, une fois que Maurice Denis a son œuvre chez Lerolle, qui est aussi un peintre au cœur, qui connaît des collectionneurs, qui connaît des musiciens, d'autres artistes. De fil en aiguille, on se construit un réseau. Il y a tout le milieu Natanson de la Revue Blanche, qui est aussi très important pour les nabis et pour ses décors, et qui sont les principaux d'ailleurs commanditaires de Vuillard. Mais ça, c'est Isabelle qui...
Isabelle.
C'est qui a beaucoup travaillé sur cette question. Voilà.
Sont les grands mécènes des nabis. Et ce sont les premiers commanditaires pour Vuillard. Et on voit justement dans l'exposition plusieurs ensembles, à la fois pour Alexandre Natanson, un des frères, et puis Thaddée Natanson et sa femme Missia. Donc Thaddée et Missia ont joué un très grand rôle avec leur salon.
Vous pouvez nous dire un petit mot sur Missia, puisque vous l'avez connue plus près. Voilà, très bien. Voilà, vous en avez parlé, vous avez exposé, vous avez raconté.
Missia était une jeune femme extraordinaire au temps des nabis et qui fascinait tous les artistes du groupe. Et elle était musicienne et elle avait une énergie débordante, elle s'enthousiasmait et elle recevait chez elle tout le groupe et dans la campagne également. Donc il y avait beaucoup de discussions, il y avait beaucoup de musique. Et elle
était une muse, hein, un peu de l'époque.
C'était une muse, ils étaient tous
amoureux.
Voilà.
Tous amoureux
de Missia.
Il y a un beau livre sur elle, je crois, non?
Et il y a un très beau livre, une très belle biographie qui reste vraiment le livre de référence. Et puis aussi, on avait...
Mais qu'est-ce qui a écrit ça?
Ce sont deux auteurs américains qui ont beaucoup travaillé dans des archives, justement, qui sont à New York, sur Missia et sur son parcours aussi, parce qu'elle c'était une musicienne assez réputée. Et elle a eu une longue vie, Missia, elle a connu beaucoup de personnalités. Donc ça, les mondes de Missia étaient évoqués aussi à Orsay à travers une exposition.
Alors, bon, c'est sorti en poche, donc vous pouvez le lire. Moi, je vais le lire aussi parce que j'en ai entendu parler en bien. Alors, dans l'exposition, il y a quelqu'un qui apparaît splendide, je dois dire. C'est, par les œuvres que vous avez su réunir, c'est Vuillard. Il se détache avec une liberté incroyable.
C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des prêts exceptionnels de Vuillard, surtout des représentations donc dans ces panneaux d'intérieur. Donc c'est une espèce de vision en abîme comme ça, de personnages un peu flottants dans des mondes qui sont à la fois inspirés par la réalité, mais ce qui est très intéressant, c'est aussi la tension entre les objets inanimés, les êtres animés, et on voit que dans cette tension, les objets ont peut-être le dernier mot et que les personnages sont pratiquement menacés de disparition dans cette matière colorée.
Mais oui, c'est incroyable, hein. Ils sont dissous par la peinture, c'est absolument, c'est d'une beauté, mais c'est aussi d'une audace, parce que les tableaux deviennent des tableaux d'une abstraction quasiment intense, mais tout vibre, on n'a pas du tout, on n'a jamais la sensation qu'il y a un arrêt, c'est d'ailleurs épuisant pour l'œil d'une certaine façon.
Oui, il y a beaucoup de touches de couleurs, mais en même temps, il y a un tel art de l'harmonie, justement, du choix du chromatisme. C'est absolument fabuleux. Et ces tableaux qui décrivent, voilà, un monde vibrant évoquent aussi le monde de la musique, qui évoque le monde de la poésie. Donc, avec les nabis, on est dans ce désir de synesthésie.
Qu'est-ce que ça veut dire, synesthésie ?
C'est la correspondance entre tous les sens, à la fois ce qu'on voit, ce qu'on entend, la musique aussi d'une poésie, et ce désir de cristalliser.
C'est un désir théorique, c'est aussi une théorie, c'est pas seulement un mot pour dire ma peinture est musicale. Est-ce que ça voudrait laisser penser que les artistes avaient consciemment l'idée que ça pouvait être utilisé ou ça pouvait atteindre, la peinture pouvait atteindre tous les sens par équivalence?
Oui, c'est ce désir aussi de décloisonnement qui est très fort dans cette peinture. On n'est pas uniquement dans la conception d'un tableau. On est dans un univers et cet univers nous appelle par tous nos sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que cette peinture nous parle encore beaucoup aujourd'hui parce que les sensations sont les mêmes. Et ce désir de, à travers la couleur, d'aller vers la musique, c'est quelque chose qui finalement se fait assez naturellement.
Alors écoutons ce que dit André Gide. Alors c'est un peu plus tard, c'est en 1905. Hein, les nabis ont dû se séparer vers 1900 à peu près. Écoutons ce qu'il dit sur Vuillard justement, puisque nous en parlions avec admiration.
Je connais peu d'œuvres où la conversation avec l'auteur soit plus directe. Cela vient, je crois, de ce que son pinceau ne s'affranchit jamais de l'émotion qui le guide, et que le monde extérieur, pour lui, reste toujours prétexte et disponible moyen d'expression. Cela vient surtout de ce qu'il parle à voix presque basse, comme il sied pour la confidence, et qu'on se penche pour l'écouter. Il est d'une mélancolie point romantique, point hautaine, discrète, et qui garde un vêtement de tous les jours, d'une tendresse caressante et, je dirais, presque timide, si ce mot se pouvait accorder avec déjà tant de maîtrise. Trop délicat pour affirmer, il insinue. Dans ces deux grands paysages avec figure, c'est un indéfinissable violet carminé, mais avec tant de sûreté que, restant encore surprenant, ce carmin paraît pourtant nécessaire. Nulle recherche d'éclat, un constant besoin d'harmonie par une entente à la fois intuitive et savante des rapports. Chaque couleur explique inopinément sa voisine, obtient d'elle et réciproquement un aveu. André Gide, Promenade au Salon d'automne de 1905.
Nous venons d'entendre André Gide, nous sommes en 1905, parler des violets carminés. Et c'est vrai, Sylvie, qu'il y a quelque chose qui est assez frappant dans ces tableaux. C'est que les couleurs, contrairement à Gauguin, qui est pourtant leur référence, les couleurs ne sont jamais pures. C'est des terres de sienne, des bruns, des orangés, des carminés. Les couleurs sont... C'est le contraire de la leçon de Gauguin, non? Il n'y a pas quelque chose qui est étrange dans cela?
Alors, effectivement, les couleurs sont plus souvent plus sourdes, mais enfin, elles sont quand même aussi lumineuses. Et la recherche autour des couleurs est vraiment importante dans ces décors. Donc, on a la voix, on a la ligne Vuillard, en quelque sorte, avec presque ces effets textiles, enfin, cet entrelacement d'une multitude de couleurs.
Vous pensez que c'est une recherche, l'effet textile? Ça correspond à leur volonté de faire des décors et de s'inspirer, comme vous le rappeliez tout à l'heure, des tapisseries?
Oui, absolument. Je pense que ça fait partie aussi de cette démarche vers le décoratif et de ce dépassement de la peinture de chevalet, en fait, de créer des équivalences. Et dans la saturation justement chez Vuillard de la composition dont parlait Isabelle, on a vraiment ce vocabulaire de la tapisserie. En fait, l'air ne circule plus. C'est vraiment l'anti-impressionnisme de ce point de vue-là. Et pour revenir aux recherches colorées, donc il y a cette direction empruntée par Vuillard, mais il y a aussi une direction un petit peu différente qui est illustrée dans l'exposition par le cycle, par exemple de Maurice Denis, décoration pour les chambres pour une chambre de jeune fille qui avait justement été commandée par Bing.
C'est les quatre saisons.
Alors non, je pensais à autre chose. Je pensais à la frise en fait qui est inspirée de Schumann, qui a été commandée par Bing, qui a été un four complet. Je crois qu'au bout de 15 jours, Maurice Denis a dû retirer et les meubles et les panneaux parce que personne n'aimait. Et il a travaillé dans un camailleux de bleu, des couleurs assez sépulcrales qui effectivement ne sont pas du tout les couleurs de Gauguin. Donc il y a ces expérimentations colorées qui leur sont propres et qui, à mon avis, vont toujours dans ce sens d'une déréalisation et de la suggestion, comme le disait André Gide dans la citation qui vient d'être lue. Enfin, il faut suggérer plutôt que d'écrire, y compris dans le décor, et c'est ce qui en fait la poésie aussi et la musicalité.
Alors, vous venez de parler des meubles qu'avait choisi Maurice Denis.
Qu'il a dessiné,
voilà. Alors, c'est quelque chose que j'ai regretté, je dois le dire, qu'on ne le voit pas plus dans l'exposition, parce que j'aurais aimé que l'exposition soit un univers complet, évidemment. J'aurais aimé voir les meubles, les tapisseries. Alors, il y a des laits de papier peint, mais je n'ai... Alors, ça doit être très difficile à faire, et puis très cher, probablement. Comment ça se passait? Parce qu'on parle un petit peu des peintres, mais vous ne nous parlez pas beaucoup de qu'est-ce qu'ils aimaient associer à leurs œuvres? Comment est-ce qu'ils voyaient la complétude de leur démarche?
Oui, c'est vrai, c'était impossible de reconstituer ce qu'on pouvait être ces intérieurs. Donc il fallait suggérer, parce que au fond, c'est un moment très expérimental, hein, ces décors des nabis. Et aussi, c'est une forme d'échec dans leur projet. L'art pour tous, un art aussi, une œuvre d'art totale avec voilà la conjugaison des talents. Donc c'est plutôt Siegfried Bing qui a réussi en faisant travailler des artistes décorateurs comme Van Velde avec les peintres.
Ce barbare, non, c'est pas ça?
Oui, c'est ça, parce que bon, il y avait aussi beaucoup de rivalité entre les artistes. Et de même que Van Velde a beaucoup critiqué la frise peinte par Ranson qui était au-dessus de ses meubles, parce que bon, voilà, il préférait qu'on voit ses meubles seuls. Mais Bing voulait vraiment conjuguer les talents pour faire des nouvelles propositions. Mais on ne sait pas exactement ce qu'on peut être ces intérieurs en réalité. Qui achetait, ou en tout cas, on connaît pour les commanditaires.
Il y a une ou deux photos dans l'exposition. On a beaucoup de traces photographiques.
Alors non, justement, un des grands problèmes de l'organisation de cette exposition, c'est qu'on ne pouvait absolument pas reconstituer les intérieurs parce qu'on n'a aucun document, aucune photo. Ah. On ne sait rien à part une photo, deux photos de la galerie Bing, justement, avec ces pièces de la galerie arrangées comme des pièces d'appartement, chambre à coucher, salle à manger. Et ce qui nous a permis d'ailleurs d'accrocher la décoration de Ranson à une certaine hauteur, comme c'était présenté chez Bing.
Mais pour les intérieurs privés, effectivement, pour les particuliers, on n'a quasiment pas d'archives photographiques. On en a un petit peu, vous parliez de Van de Velde et de Harry Kessler tout à l'heure. On a quelques vues, puisque Kessler a associé justement les meubles de Van de Velde et puis des peintures Nabi. Mais la plupart de ces intérieurs, tous ces intérieurs ont disparu, en fait.
Alors, il y a deux tendances qui semblent apparaître dans ces décors dont nous parlons à l'instant. Il y a ceux qui sont, qui font de ces maisons, des endroits calmes et méditatifs, repliés sur une sorte de vie domestique où les femmes apparaissent. Alors on parlera tout à l'heure du statut de la femme parce que c'est assez particulier ici. Et puis il y a les autres qui les transforment quasiment en chapelles. On a l'impression que ce sont des mystiques. Est-ce que chez Nabi, il y avait effectivement ces deux orientations?
Il y avait deux grands courants. Et ce qui était intéressant aussi dans la conception des intérieurs de Vuillard, moi ce qui m'intéressait, c'était la remise dans le contexte. Quand il peint la décoration pour Thaddée Nathanson, on est en pleine affaire Dreyfus. Mmh. Donc il y a la menace qui vient du monde extérieur, et le monde intérieur apparaît comme une sorte de foyer idéal pour le développement des arts, et un monde très protégé. Mais voilà, ce contexte est intéressant. Ensuite, par rapport aux deux grands mouvements des Nabis, c'est vrai qu'ils s'opposent. Ils peuvent se rejoindre parce qu'il y a un désir justement de dépasser la réalité, mais certains habits vont aller du côté du spirituel, du religieux aussi avec Maurice Denis, de l'ésotérisme parfois.
Et avec Ranson par exemple.
Voilà. Et le désir de théoriser aussi sur la manière de peindre. Et puis, la dernière section qui s'appelle « Rites sacrés » fait justement allusion à ces rites qui permettent à l'invisible de se matérialiser. Et on voit beaucoup de forêts bretonnes avec...
Là, il y a un tableau de, que je ne dise pas de bêtises, de Sérusier justement, qui est extraordinaire, avec les arbres rouges et la source, comme ça, avec le défilé des femmes vers la source. Très très beau tableau, vous pouvez nous le raconter ?
Donc c'est un tableau peint par Sérusier pour Georges Lacombe, qui était un habit sculpteur, et qui représente des femmes sur un chemin assez sinueux, portant des jarres oranges. Et quand on éclaire ce tableau, ce sont ces jarres qui s'éclairent comme des lanternes japonaises sur ce chemin sinueux. Et ce chemin va d'une source, probablement source sacrée, vers un puits, dans un mouvement sans fin. Donc le tableau a été aussi interprété comme un tableau représentant les Danaïdes.
Mais ah oui. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve fascinant. D'abord, c'est vrai que les couleurs sont l'intensité. Vous avez tout à fait raison. Je vois maintenant que vous l'avez décrit. Les jarres rouges portées qui auraient pu être orangées comme de la terre cuite, hein, là qui sont d'un rouge intense porté par les femmes sont fantastiques. Et puis, en haut du tableau et en reflet dans l'eau, il y a ce jaune extraordinaire rythmé par les entrelacs de fenêtres quasiment gothiques et qui sont en fait simplement la façon dont les branches se répondent les unes aux autres.
Oui, tout à fait. La lumière est complètement surnaturelle et très forcée. On a l'impression d'être presque dans une composition insolée où le motif est vu passant devant une lumière très forte. Et ces arbres qui sont en haut ressemblent à des colonnes, presque des colonnes de cloître aussi.
Donc la forêt est un temple en fait.
Oui, on est dans un espace sacré. Et c'est vraiment ce que certains habits veulent nous faire ressentir, espace sacré, espace où vont se manifester des formes invisibles et qu'ils vont rendre visibles par des procédés, comme ici chez Sérusier, ce procédé vers l'abstraction aussi de toutes ces formes et la construction par la lumière divine hein, peut-être aussi, en tout cas, ces compositions nous ramènent aussi à des choses très élémentaires, comme le cycle de la vie est très souvent associé à l'eau, avec les femmes aussi, qui sont évidemment les plus forts symboles de ce cycle et de ce déroulement de la vie.
L'eau, vous avez tout à fait raison, parce que ça m'a frappé dans l'exposition, le nombre de décors, papier peint, éventail, dans lequel le thème de l'eau apparaît. Par exemple, il y a un éventail, je ne sais pas si vous avez remarqué, Sylvie, qui est un éventail avec... Des bateaux comme ça, des voiliers qui passent. Et il y a un rapport entre le mouvement du vent de cette aile qui bat, j'imagine, dans les mains de la jeune femme qui aura la chance de la voir, ce qui n'est pas arrivé puisqu'ils sont restés à l'état de projet, je pense, et le vent qui pousse ces voiliers, c'est extraordinaire. La relation est d'une force.
Alors on a aussi des abat-jours peints, en fait, cette forme d'éventail,
c'est un
abat-jour.
Oui.
Et ce qui est très intéressant, c'est un abat-jour...
Donc ma démonstration s'effondre
mais
là,
non, à
l'instant même.
Mais non, pas du tout, parce qu'elle rebondit. Elle rebondit parce qu'en fait, c'est un abat-jour, donc c'est un... on va encore plus loin, puisque la lumière traverse cette composition qui reboucle sur elle-même. Donc on est vraiment dans le mouvement des bateaux, dans le mouvement du vent, et on est exactement à l'époque de la naissance du cinéma. Donc oui. Valoton va nous faire cette lanterne magique personnelle, puisque ses abat-jours étaient destinés à son usage personnel. Et ils évoquent aussi, enfin moi, évidemment, à l'univers enfantin et aux comptines enfantines avec ces mouvements qui sont très très poétiques. Donc il y a ce rapport au cinétisme aussi dans cette représentation en continu chez les Nebs.
Alors le cinétisme, on le voit dans les papiers peints. Hein, si vous regardez les papiers peints avec les canards de Ranson... ou bien
oui, le papier peint de Maurice Denis aussi.
Alors ça c'est Maurice Denis, celui-là, les trains.
Oui. Les trains, les bateaux.
Alors les trains, moi j'ai cru quand je l'ai vu de loin en rentrant dans l'exposition que c'était des chenilles. Et j'ai découvert après que c'est des trains et je me suis dit ce que je vais dire sur le refus du monde contemporain est donc faux.
Oui, voilà. Il y a des trains en papier peint, il y a aussi le tapis roulant d'exposition universelle par Maurice Denis pour un abat-jour, donc le monde tel qu'il est n'est pas effectivement complètement absent, et le cinétisme, enfin cet intérêt pour le mouvement est peut-être ici accentué par le rôle de la ligne, de l'arabesque qui est très dynamique et qui fait penser, qui annonce dans certains cas la ligne coup de fouet un peu de l'art nouveau, donc qui introduit ce mouvement, et puis par l'effet évidemment de répétition du motif propre au papier peint.
Mais Sylvie, ces ensembles magnifiques que font ces artistes à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas la même révolution et le même désir d'œuvre d'art totale qui a lieu en Angleterre au même moment, en Autriche quelques semaines plus tard, si j'ose dire. Enfin, ça envahit l'Europe, le désir d'avoir des mondes complets, non ?
Oui, bien sûr, ils sont vraiment partie prenante de tous ces mouvements en Europe qui commencent un peu plus tôt en Angleterre avec le mouvement Art and Craft, et les Nabis étaient très conscients de ce mouvement. Ils connaissaient bien en particulier William Morris, hein, qui a été très, très influent en France, mais on observe les mêmes phénomènes à Bruxelles, qui est une scène artistique qui échange
d'ailleurs,
beaucoup
Van
avec Veld, Paris.
Que vous Van citiez Veld tout à l'heure, voilà, vient de là, oui.
Absolument.
Horta, d'influence.
Et puis évidemment, ensuite il y aura Vienne, alors ils prennent une direction formelle un petit peu différente, mais il y a vraiment cette idée qui part de ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire comment donner aux hommes d'aujourd'hui un décor de leur temps et renouveler toutes les formes et puis remettre l'artiste dans la société, en fait, en quelque sorte, puisqu'il produit des décors, il produit un environnement dans lequel les gens
Vous pensez que c'est politique, ça, c'est-à-dire que l'idée que l'artiste a une responsabilité dans la définition de l'esthétique d'une époque, est-ce que c'est une responsabilité que les Nabis auraient pu s'attribuer ? On le verra politiquement avec le Bauhaus quelques années plus tard, qui n'est que la conséquence de ça. C'est-à-dire un accord entre l'artisanat d'art et les artistes.
Alors, j'irai pas pour les Nabis jusqu'à une vision politique. En plus, ils étaient, comme l'a suggéré Isabelle, pas forcément du même bord, pour autant qu'on sache, et notamment entre Maurice Denis par exemple se distingue sur l'échiquier politique, il est plutôt évolué vers l'Action française, donc je dirais pas qu'ils ont porté une vision politique de l'artiste, mais ils ont été effectivement de fervents défenseurs de cette idée d'abolition des hiérarchies entre les formes artistiques et du rôle de l'artiste. Mais comme on l'a souligné, en fait, ce qui a manqué au Nabis, c'est l'évolution vers le grand public, vers le design, tout ça est resté soutenu par un cercle finalement relativement étroit. Ça a eu un impact très important pour l'histoire de l'art, mais du point de vue de la diffusion publique, c'est une aventure qui restait assez limitée, je crois.
Limitée dans le temps, donc aussi Isabelle Kahn, parce que ces Nabis se séparent vers 1900 à peu près. Il y en a qui disparaissent. Pourquoi ils se séparent d'ailleurs ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que leur autonomie s'est défaite ? Est-ce qu'ils ont vraiment été un mouvement ou est-ce qu'ils ont été juste une bande de camarades ? Comment est-ce que vous voyez ça ?
Oui, c'est un mouvement qui est un petit peu difficile à définir puisqu'il est très... Il y a quelque chose d'assez fluide. D'abord, il y a des amitiés, il y a des liens qui vont se poursuivre, même après 1900. Et puis, il y a des artistes qui viennent, qui font un petit peu... qui viennent travailler avec les Nabis, puis qui partent ailleurs, qui vont vers différents univers. Donc on peut pas parler d'unité. C'est pas une véritable confrérie. C'est pas un mouvement bien défini. Justement, c'est ce qui est intéressant, c'est son côté protéiforme et ses univers très différents que chaque artiste va développer.
Et... Parce que là, on parle surtout de Denis Vuillard-Bonnard dans l'exposition, qui sont absolument somptueux. Il y a Ranson aussi, bien entendu, qui est là et très bien d'ailleurs représenté, je trouve. Mais on aurait pu parler de Valoton, qui est lui aussi décrit ses intérieurs extraordinaires, mais plutôt en peinture qu'en environnement. Hein, c'est ça peut-être la différence. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient dû ou pu être associés à ce désir ?
Oui, il y aurait pu y avoir Ripple Ronay, qui a fait aussi beaucoup d'expériences avec la tapisserie.
Il y a Mayol dans l'exposition.
Oui, voilà. Mayol, oui, c'est ça. Alors, il y a un sculpteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Lacombe.
Oui, hein, Lacombe.
Et qui a été commanditaire de ses amis, non ?
Et justement, tous les les décors réalisés par Sérusier en 1897. Donc Sérusier a réalisé des décors pour la maison de la Combe près d'Alençon. Et ces fameux décors sur le thème de l'eau et sur le thème de la forêt bretonne, avec ses apparitions et ses cérémonies druidiques et ses fées aussi qui sont dans les bois.
Il y a un environnement, je sais pas si, j'espère que je vais pas vous choquer Sylvie, que j'ai pas beaucoup aimé, à la fin, est-ce que c'est Maurice Denis avec les chasses à cours qui se terminent? J'ai trouvé que c'était dur, ça.
Ah, écoutez, moi qui ai fait une exposition sur Maurice Denis, oui, c'est un décor que Maurice Denis a conçu pour Denis Cochin, pour un bureau, pour une pièce étroite. Et effectivement, quand on parlait des deux tendances du groupe des Nabis, donc Maurice Denis est clairement dans les catégories de ceux qui s'engagent vers une spiritualité. Alors, très différent quand même de Sérusier Ranson, parce que l'ésotérisme ne l'intéresse pas, c'est vraiment le catholicisme. Et donc là, il s'adapte aussi à la demande de son commanditaire. Donc, son commanditaire aimait la chasse, et il mêle profane et sacré en peignant une chasse avec la révélation de Saint-Hubert, donc qui va voir un crucifix entre les branches les bois d'un cerf, pardon.
Il y a des beaux moments, mais on a l'impression que c'est très servile au fond. Elle est un peu servile cette grande installation.
Alors je dirais pas servile, parce qu'il y a vraiment une stylisation et il y a vraiment un travail sur les couleurs et sur les formes, mais on est à un moment de transition. On parlait de 1900 comme moment un peu de point de rupture des Nabis. Là on est en 97, c'est ça. Donc le moment où Maurice Denis évolue aussi vers ce qu'il va appeler un classicisme et où il va vouloir abandonner justement ce côté plus nébuleux, ce côté plus informel plus informe des Nabis, même si lui a toujours bien structuré sa peinture. Donc on est à un moment charnière, en effet. D'ailleurs, c'est Maurice Denis qui clôt un peu, de ce point de vue-là, l'exposition. L'œuvre la plus tardive, ça doit être le paravent qu'il avait réalisé en 1905. Voilà,
en tout cas, il y a un moment d'intensité et quand même un moment collectif assez extraordinaire, avec, je n'arriverai pas à ne pas le penser, des Vuillards bouleversants.
Oui, il y a beaucoup d'émotions. Les Vuillards dans ses intérieurs, mais aussi, on ne s'est peut-être pas tellement attardé à Bonnard, sur Bonnard avec ses vergers et ses impressions de cueillette des pommes, complètement liées à ses souvenirs d'enfance. Donc là, on est dans le plein air, on est immergé dans l'air, on sent presque le parfum de la chlorophylle est face à ces grands panneaux qui viennent de trois continents quand même, donc qui sont réunis ici d'une manière exceptionnelle. Donc ce sont les univers du souvenir, des émotions, et puis aussi ces univers de la narration, de l'espace-temps, de la continuité, de la discontinuité. C'est aussi une présentation d'une nouvelle façon de voir les œuvres d'art.
Merci beaucoup, beaucoup pour cela, Isabelle Kahn. Bravo pour cette exposition. Merci Sylvie Patry. Et donc, nous irons au Luxembourg.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu Isabelle Kahn, conservatrice générale des peintures au musée d'Orsay, mais surtout commissaire de l'exposition Les Nabis et le décor qui a lieu en ce moment et qui aura lieu jusqu'à quand d'ailleurs ?
Jusqu'au 30 juin.
Jusqu'au 30 juin, au Musée du Luxembourg. Et Sylvie Patry, conservatrice générale, elle aussi au Musée d'Orsay, et qui est co-auteur de ce catalogue. Nous avons donc parlé des Nabis et du décor, et pour retrouver les références des musiques et des livres, eh bien venez sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Olivier Martineau. Une émission préparée par Héloïse Alluin, merci Héloïse, et conçue en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son, Frédéric Changenet. Réalisation, Guillaume Baldi. La semaine prochaine, nous parlerons de Rouge, l'exposition du Grand Palais, Art et Utopie au pays des Soviets. C'est le moment extraordinaire où l'avant-garde, qui a réinventé complètement l'art du début du XXe siècle, est attaquée par le politique et, après l'avoir soutenu, se dégrade peu à peu. C'est une exposition très très intéressante. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre, et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.